Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers.
Alors, on a eu envie de commencer cette troisième rencontre par ce texte des Béatitudes, hein, ce texte extraordinaire, sermon sur la montagne, parce qu'on a voulu mettre en premier aujourd'hui le ciel. On s'est dit qu'on ne pouvait pas vous parler du mystère, de la souffrance, des épreuves de nos vies sans mettre au centre, en fin de compte, le ciel, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, on a dit que Dieu était tout puissant, hein. Mais il y a une chose qu'on n'a peut-être pas encore bien expliquée, c'est que Dieu c'est un architecte, hein, je vous ai dit, c'est un ingénieur, c'est un poète, c'est un musicien, mais c'est l'architecte, attention, là souvent on se trompe dans ce qu'on attend de lui, c'est l'architecte de la vie éternelle, c'est l'architecte de la Jérusalem céleste. C'est pas seulement l'architecte de notre vie terrestre ici, c'est l'architecte de la Jérusalem céleste. Et alors, c'est peut-être mon côté ingénieur, hein, j'étais longtemps ingénieur, je me suis demandé un jour, mais quel béton céleste va-t-il utiliser pour fabriquer sa Jérusalem céleste, hein, il est en train de préparer la cité du ciel, quel est le béton céleste qu'il va utiliser? Il faut bien qu'il construise avec quelque chose. Eh bien, la réponse, la liste des matériaux que Dieu va utiliser pour construire la Jérusalem céleste nous est donnée dans le sermon des Béatitudes. C'est un manuel pour architectes. Voilà la liste des matériaux que l'architecte céleste va utiliser. La peine et la tristesse, hein, les affligés, la pauvreté, la douceur, la pureté, la miséricorde. C'est tous ces éléments-là qui sont si précieux aux yeux du Seigneur qu'il va utiliser pour sa construction céleste. Et il est en plus génial parce qu'il a des stocks immenses, ça veut dire qu'il garde tout précieusement dans son cœur. Alors chaque fois que dans votre vie il y a un acte d'amour, un acte d'offrande, un acte d'humilité, un acte de joie, un acte de don, il engrange ça, vous inquiétez pas, il engrange ça. Exemple, on bosse pendant des dizaines d'heures pour préparer un parcours, et puis ça foire complètement, personne n'est intéressé, il n'y a personne qui écoute. Ça, c'est pas grave. Tout ce que vous avez donné pour préparer, c'est engrangé, c'est dans les granges célestes, c'est pour le ciel. Vous faites un sourire à quelqu'un, puis après vous lui faites la gueule 6 mois. C'est pas grave, ce sourire, il est engrangé, ça va s'arranger. Hein, c'est notre architecte céleste, il est extraordinaire dans sa toute-puissance, il conserve tout, puis vous serez surpris de tout ce qu'il a gardé de votre vie quand vous arriverez au ciel. Il va construire avec tout ça. Alors, vous voyez que le Seigneur change votre échelle de valeur. Parce que si vous avez bien écouté la liste, il n'y a pas la beauté, il n'y a pas la perfection, il n'y a pas la force, il n'y a pas la richesse. Et ça tombe bien parce que, je ne sais pas si on vous l'a déjà fait remarquer, mais il y a peu de chances que vous restiez beau, riche, séduisant et jeune toute votre vie. Hein, il y a un moment où ça va bouger, quoi. Comme disait l'autre, la laideur a un grand avantage sur la beauté, c'est qu'elle dure. Hein, voilà. Donc le bon Dieu change notre échelle de valeur complètement. Et voilà, il faut écouter ce message de Jésus qui nous parle de son Père du ciel et du bonheur du ciel. Alors, on ne peut pas omettre autour de cette question de béton céleste des ouvriers célestes. Alors là, d'un seul coup, on tombe sur quelque chose de plus poignant, c'est que on ne peut pas parler de ce mystère de l'épreuve sans évoquer cet accueil extraordinaire que Dieu fait à tous ces innocents qui meurent, hein, à tous ces innocents qui sont victimes de ces persécutions, de cette souffrance, de cette épreuve, de ces décès. Le Seigneur les accueille avec une joie immense, et puis il commence avec eux la construction. Et puis il nous accompagne sur cette vie, et ensemble ils construisent le royaume de Dieu. Alors ceux qui ont eu des décès, ceux qui ont eu des épreuves, qui ont perdu des êtres chers, il faut vraiment une grâce de l'Esprit-Saint pour rentrer dans cette perception, mais le Seigneur les a pris avec eux. Hein, ils sont toujours là, puis ils travaillent avec nous pour cette Jérusalem céleste. Alors le problème, c'est que dans le début de la Genèse, il est dit « Dieu fit l'homme à son image ». Le problème qu'on a, notamment dans cette question du mystère de la souffrance, c'est qu'on a tendance à faire Dieu à notre image. Hein ? On a tendance à râler, on a tendance à contester, et au fond c'est parce qu'on fait un Dieu petit, on fabrique un Dieu dans une boîte qui est à notre mesure. Et on oublie que c'est un architecte céleste, on oublie qu'il a une vision globale de l'histoire de l'homme et de l'histoire de notre vie. Alors on a tendance à le faire à notre image, puis à le ramener à nos dimensions, et on ne comprend rien à ses plans, on ne comprend rien à son ensemble. Seulement c'est le contraire, c'est nous qui sommes faits à son image, et c'est à nous de monter, c'est à nous de le rejoindre. On a travaillé tard hier soir en priant pour vous, puis elle m'a dit au fond ce qu'on fait, c'est que on aimerait que Dieu soit dans une boîte, puisque la boîte on écrit, pas de problème. Hein, on aimerait que Dieu ce soit une boîte, sur cette boîte il y a écrit pas de problème dans notre vie, on est confort, on est tranquille. Autrement dit, on va rester là toujours jeune, beau et riche et efficace. Mais ce n'est pas du tout son plan. Son plan, c'est la Jérusalem céleste. Alors ça change complètement la perspective, ça s'appelle une conversion.
Hein. Sur sa boîte, Dieu, lui, il écrit « Aime-moi, je t'aime, veux-tu m'aimer ?» C'est ça qu'il écrit, lui, sur sa boîte. Nous, on écrit « Je voudrais avoir une petite vie cool et tranquille. » Et lui, il écrit « Veux-tu m'aimer ? Veux-tu vivre une aventure folle ?»
Alors, on s'est beaucoup occupé de jeunes, encore maintenant un peu, et on a eu pas mal de décès, enfin quelques décès dans les jeunes dont on s'est occupé, puis des croix, des épreuves, puis aussi de très belles choses. Enfin, je ne devrais pas dire aussi d'ailleurs, mais ça fait partie de l'ensemble. Et on a beaucoup prié pour ça, puis on s'est dit, mais au fond, peut-être que l'architecte céleste, il a pris tel jeune au moment où il était le plus proche de la sainteté. Il a peut-être pris au moment où il était en état de grâce, où son cœur était merveilleux, où il avait posé des actes d'amour, c'était le bon moment. Hein? Allez savoir, on n'en sait rien. Là, on doit vraiment être dans l'adoration, parce qu'on n'a pas les clés. On ne comprend pas Dieu. On ne peut pas faire Dieu à notre image. C'est nous qui essayons d'être comme lui, puis d'être transformés par lui. Alors, attention, c'est pas le tout. On n'est pas sur terre pour galérer et souffrir en attendant d'être au ciel, parce qu'on a une mission. Alors, je vous propose une définition de cette mission par saint Paul. Moi, j'adore saint Paul. Voilà ce qu'il nous dit. Écoutez bien, quelle est notre mission sur terre? Parce qu'on n'y est pas encore au ciel pour l'instant. Nous, on n'y est pas avant la Jérusalem céleste. On accumule des matériaux, mais on est encore là. Il y a du boulot. Quelle est la mission que saint Paul nous assigne? Écoutez bien. Soyez toujours joyeux. Alors, Thessaloniciens 5,16, je connais par cœur. Ceux qui veulent, vous le notez, vous chercherez. Thessaloniciens, lettre Thessaloniciens, chapitre, première lettre Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16.
Ça va ?
Il y a quelqu'un qui m'a demandé de bien articuler, alors j'essaie de faire attention. Première Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu sur vous dans vos vies. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, c'est la volonté de Dieu sur vous dans vos vies. Ça, c'est notre mission sur la terre. Donc notre mission, c'est pas de larmoyer du matin au soir. Notre mission, c'est d'être joyeux. Et si vous regardez bien ce que dit saint Paul, il nous dit pas « ça serait bien que vous soyez joyeux ». Il nous dit « soyez joyeux ».
C'est un ordre.
C'est un ordre. C'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu veut pour nous dans notre vie. Alors vous allez me dire, il y a plein de circonstances où c'est impossible. C'est vrai. Il y a plein de circonstances où c'est difficile. Ceci dit, moi, bon, je suis prof, hein, je suis instituteur, puis j'aime bien mettre chaque semaine un alexandrin pour mes élèves. Donc je rédige une espèce de petite poésie d'une ou deux phrases que je mets au mur. Puis il y en a une que j'aime bien, c'est « On peut souvent choisir de rire, de pleurer ou de rire. On peut souvent choisir de pleurer ou de rire. » Vous voyez, c'est un alexandrin, ça fait 12 pieds. Hein. On peut pas toujours, hein, y a plein de moments où on peut pas, mais quand même, faut pas exagérer. Il y a plein de moments où on a le choix. Et tous ces moments où on choisit de rire, au lieu de choisir de pleurer, c'est des moments où on se construit, c'est des moments où on prend une orientation de l'âme, puis ça va ressortir presque automatiquement dans les épreuves. Hein, c'est quand même des choix qu'on peut faire. Mais il reste que soyez toujours joyeux, c'est quand même pas évident sans le don de l'Esprit Saint. Et là, on touche du doigt que Jésus, il n'est pas venu seulement pour nous accompagner. Il n'est pas venu seulement pour avoir vécu toutes nos galères avant nous, pour que ça nous rassure. C'est beaucoup plus puissant, la rédemption. Jésus, il est venu pour nous donner une nourriture substantielle, quelque chose qui nous construit, qui nous nourrit, qui nous met debout, qui nous rend toujours joyeux, qui nous rend capable de prier tout le temps, qui nous rend capable de suivre la volonté de Dieu. Et alors, c'est les trésors de l'Église. Hein. Alors, puisez-y à pleine main. On vous a dit qu'aujourd'hui, on vous donnerait des armes. Alors, première grande arme, bah, c'est le kit. Ah, je vais trop vite, pardon. C'est le kit du chrétien, le kit de l'enfant d'Église. Alors, c'est les trésors de l'Église. D'abord, la confession qui va nous purifier, qui va nous transformer. L'Eucharistie, on va rencontrer Jésus hein, dans toutes ses peines, dans toutes ses souffrances, et dans sa résurrection, il est là, et il va se répandre dans notre cœur. La vie dans l'Esprit, vivons sous la conduite de l'Esprit Saint. À nous, moi j'ai dû bosser au moins 20-30 heures pour préparer ce parcours, on a quasiment recommencé la moitié depuis 3 jours, là, depuis qu'on est là avec vous. Parce qu'on écoute, parce qu'on vous observe, parce qu'il y a plein de jeunes qui viennent nous voir, parce qu'hier j'ai mangé avec quelqu'un, un prêtre au repas, il m'a dit 3 trucs, il savait même pas ce qu'on faisait, clac, je me suis dit, ouh, ça c'est super. Hein, il faut essayer de vivre sous la conduite de l'Esprit puis d'être souple. C'est lui le patron. Et puis la prière. Enfin, je vais pas refaire toute la catéchèse, mais oui, c'est trésor qu'a l'Église. C'est le kit de base hein, que Jésus nous a obtenu par sa rédemption, puis ça va nous permettre d'accomplir cette mission, cette feuille de route de saint Paul. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Alors nous, avec Anne, depuis qu'on est mariés, c'est notre feuille de route. Hein. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Je ne vous dis pas qu'on y arrive tout le temps, de loin, mais c'est le but, c'est la feuille de route, hein, c'est l'objectif. Et puis c'est notre idéal de vie, quoi. Alors, ça c'était l'intro, hein. Je suis un petit peu long dans mes introductions. Maintenant on vous propose des points, des armes concrètes pour vous battre. Alors ça va être très concret, on a organisé ça en 5 ou 6 points. À chaque fois on tâchera de donner des témoignages, des histoires vraies qui sont un peu vivantes. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille vraiment de les noter ces points, ça peut vous faire des armes pour les mois, pour les années qui viennent, et relisez-les quand vous êtes dans la galère. Ça va vous faire des outils pour tenir debout. Hein. Alors, on commence par un truc formidable, ça s'appelle la vertu d'espérance. Alors, Anne nous parle de la vertu d'espérance. Premier point, la vertu d'espérance. Vous allez voir.
Alors, en français, le verbe espérer, il est vraiment nul. Parce qu'on espère que le gâteau est cuit, on espère qu'il ne va pas pleuvoir, et on espère en Dieu. Bon. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, espérer que le gâteau est cuit, c'est l'espoir. Hein. L'espérance, c'est autre chose. Un soir, on était en maisonnée. Donc, les maisonnées, c'est des petites soirées communautaires. Et il y a une petite sœur communautaire qui a l'air de rien, qui m'a sorti cette phrase. Moi, elle est venue dans mon cœur, et je l'ai gardée depuis. L'espérance, c'est une certitude. Dieu m'aime et il agit dans ma vie. Waouh ! Alors je la redis, parce que cette phrase-là, mettez-la dans votre poche et gardez-la toujours dans votre poche. L'espérance, c'est une certitude. Dieu m'aime et il agit dans ma vie. Ah mais ça change tout. Hein? Si l'espérance est une certitude, ça change tout.
Alors, une petite histoire. Il y a quelques années, on avait un échange avec un jeune couple qui est venu nous voir, enfin, des jeunes parents, ils avaient 3-4, plusieurs enfants, donc 5, entre 5 et 8 ans. Puis ils nous disent, on a un souci, on est inquiet, on voudrait parler avec vous. Alors comme on a un peu l'habitude de l'accompagnement des familles, on a dit, bah, pas de problème, venez boire un café, puis on a discuté. Et puis ils nous disent, bah, je passe la parole à Anne, elle saura mieux que moi.
Alors ils nous disent, on est vraiment inquiet, comment est-ce qu'on va faire avec nos enfants quand ils seront adolescents? Alors on leur a dit, mais ils ont quel âge? Entre 5 et 8 ans. On leur a dit, vous n'avez pas la grâce aujourd'hui pour assumer des enfants adolescents. Alors c'est une force que je vous donne, ça s'appelle la grâce d'État. C'est-à-dire, Dieu me donne aujourd'hui, à l'instant présent, la force pour gérer ce qui m'arrive aujourd'hui. Il ne me donne pas la force pour gérer ce qui va m'arriver demain, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois. Et ça ne sert absolument à rien de s'inquiéter pour l'examen qu'on va passer à la fin de l'année. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien? Alors là, oui, alors on a dit à ses parents, aujourd'hui, vous pouvez être de bons parents d'enfants de 5 à 8 ans. Vous pouvez jouer avec vos enfants, vous pouvez les construire, vous pouvez faire plein de choses. Mais surtout pas vous inquiéter pour qu'est-ce que vous ferez quand ils auront 13 ans. Donc la grâce d'État, c'est vraiment quelque chose de très fort.
Alors moi je suis quelqu'un de très créatif au niveau personnel et boulot, quoi. Je diverge toujours, j'ai plein d'idées, j'arrête pas. Donc j'ai une imagination très développée. Et alors j'ai remarqué avec le temps que chez moi, alors avec Anne j'ai changé heureusement, mais historiquement chez moi, l'imagination c'est une arme de destruction massive. C'est-à-dire que j'ai le don pour imaginer toujours le pire dans la suite. Donc tout va bien et je fais la liste soigneuse dans ma tête de toutes les catastrophes qui peuvent m'arriver dans l'année qui vient. Hein, donc c'est une capacité particulière à se gâcher le moment présent en s'imaginant déjà dans des situations épouvantables qui vont arriver un jour. Ça m'est déjà arrivé une fois de pleurer en me disant si jamais Anne meurt, je suis foutu quoi. Bon alors c'est peut-être pas le moment... Donc gardons-nous, alors voilà la clé, alors Anne pour ça elle était merveilleuse pour moi, apprendre à vivre l'instant présent. On a juste la grâce pour gérer aujourd'hui. Dès que vous vous inquiétez pour quelque chose pour lequel vous ne pouvez rien faire, c'est juste une perte de temps, ça ne sert à rien. Hein? Alors j'ai passé une époque, un moment comme je disais un peu dépressif, et je me suis rendu compte que fallait que j'ai une garde dans mon esprit, que je pose une garde sur mes pensées. Et je me suis, pendant toute cette période, autorisé que 3 sortes de pensées. Puis dès que j'en voyais une qui sortait de ces 3 catégories, je disais non, je stoppe ma tête. Première catégorie de pensée, l'action de grâce. Merci. Merci pour Anne, pour le paysage, pour merci. Deuxième catégorie, je décide. Je prends une décision. Quel que soit le sujet, je prends une décision. Troisième catégorie, j'accumule des informations, je réfléchis. Mais je réfléchis, je construis une pensée. Et il faut s'interdire, dans certains moments, de laisser notre esprit divaguer sur des délires négatifs. En fait, on perd notre temps totalement, on perd notre énergie, on perd notre esprit, on est sorti du moment présent. Voilà, on va pas être trop long. Donc, premier point, l'espérance, on a voulu vous la décliner en cette grâce d'État. J'ai confiance en Dieu, je sais qu'il m'aime, il agit dans ma vie aujourd'hui. Pas demain, demain il agira. Mais aujourd'hui, il est là. Il faut s'appuyer sur sa grâce aujourd'hui. Hein? Et puis, cette question... Voilà, puis alors, on termine avec ça.
Alors, Alexis l'a déjà abordé hier et avant-hier. C'est le coup de la valise. Hein? Vous arrivez à la gare, un ami vient vous chercher. Vous lui confiez votre valise. Pour lui confier, il faut que vous lâchiez la poignée. Alors, si dans la journée, si vous avez un sujet d'inquiétude, quel qu'il soit... Et que dans la journée, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez. Vous ne pouvez rien faire à l'instant précis pour cette chose-là, pour ce souci. Confiez-la au Seigneur. Vous dites, voilà Seigneur, je te confie ce souci, je ne vais plus y penser. Et chaque fois que je vais me rendre compte que je suis en train de repenser à ce souci, je te le reconfierai. Et au lieu de dire, Seigneur, je m'inquiète, je te supplie, je te supplie, je te supplie pour telle intention, je vais te dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Que notre vie, si notre journée est remplie de « je t'aime », elle portera beaucoup plus de fruits que si elle est remplie de « ça va pas, ça va pas, ça va pas ».
Pour résumer peut-être ça, écoutez bien une phrase que... Ouais. L'intensité de notre prière, plutôt l'efficacité, disons la fécondité, allez, je recommence. La fécondité de notre prière n'est pas proportionnelle à l'intensité de notre angoisse. Important ça, la fécondité de notre prière n'est pas proportionnelle à l'intensité de notre angoisse. Hein, c'est pas parce que je supplie Dieu la peur au ventre et puis complètement dans l'angoisse et que je transpire de trouille que ma prière est efficace. Ça vaut mieux tout mettre à la poubelle puis lui confier tout. Jésus, je t'aime. Ça, c'est une belle prière. Hein. Bon.
Alors moi, depuis que j'ai entendu cette phrase sur l'espérance, et donc on a un petit peu travaillé sur la grâce d'État et sur confier ses affaires douloureuses au Seigneur, ce que je fais dans ma vie de prière, le matin, je fais une liste, alors je peux vous dire qu'il y a des moments, elle est vraiment très longue, de toutes mes intentions de prière. Et je balaye chaque personne, tout ce que je porte. Et maintenant, je vais avoir vous tous qui vont être dans ma liste. Hein, et puis je dis au Seigneur, voilà, toutes ces intentions de prière, je te les confie, et je voudrais que ma journée ne soit qu'un « je t'aime ». Je voudrais dans ma journée, eh ben, te dire « Seigneur, je t'aime ». « Seigneur, je t'aime ». Alors parfois, on a une intention de prière qui est très forte, et qui nous revient dans la journée. Et bien on la redit au Seigneur, voilà, je te confie telle personne, et « Seigneur, je t'aime ». Et on revient au « je t'aime ». Et alors on vous disait, ce sont des armes, hein. C'est-à-dire que c'est un travail. Hein. On ne peut pas utiliser ces petites choses une fois dans la vie, puis après c'est fini. Ce sont des armes à réutiliser et réutiliser. Moi, c'est ce que j'appelle le combat spirituel. Hein. C'est mon travail.
Amen. Ben vous savez quoi? On va lui dire à Jésus qu'on l'aime. Hein. On va lui dire maintenant, puis on va se mettre dans le réel maintenant. Parce que peut-être il y en a là qui pensent, ah oui, toutes ces difficultés que j'ai laissées, tous ces gens que je vais retrouver, comment je vais m'en sortir. Stop, stop. On va dire à Jésus qu'on l'aime. Allez, un petit coup d'oraison flash, de commencer à connaître le système. On ferme les yeux. Et on se connecte à ce Dieu qui habite en nous, à l'intérieur de notre âme. Dans le château intérieur de notre âme, il y a un roi, c'est Dieu, il est là. Jésus, je crois que tu es là. Je sais que tu es là. Jésus, je te confie tout. Je fais un paquet, je lâche le paquet, je lâche la poignée de la valise, je te laisse tout. Seigneur, je t'aime. Amen. Alors, deuxième point, le bon sens. Le bon sens, il y a beaucoup de problèmes spirituels profonds qui se résolvent avec une bonne douche. Hein, je répète, non je répète pas, non c'est important le bon sens, c'est important le bon sens. On vous, un petit témoignage sur le café.
Alors on connaît une jeune femme qui était infirmière, qui avait une vie très active, des enfants, bon plein de travail. Et elle buvait 6 à 7 cafés par jour. Alors il y a des moments, elle craquait, elle s'énervait, elle pleurait, elle disait, oh là là, je vais pas bien, j'ai l'impression de faire une dépression. Alors son mari lui a dit, maintenant stop, on va arrêter les cafés. Alors elle a dormi 5 jours. Elle n'arrivait plus à rester réveillée. Son corps avait tellement pris l'habitude de vivre sous la pression du café qu'elle a dormi 5 jours. Et je peux vous dire que son humeur est allée beaucoup mieux.
Je suis obligé de reconnaître que j'ai mis, bon là j'ai 54 ans, en gros j'ai mis 50 ans pour accepter de me reposer quand j'étais fatigué. Les 50 premières années de ma vie, quand j'étais fatigué, je me disais je suis nul, hein, je suis incapable d'agir ou d'être positif, je suis nul. Et puis après 30 ans, Anne a réussi à 30 ans de mariage, on fêtera nos 32 ans dans quelques jours là. Après 30 ans de mariage, Anne a réussi à me convaincre que si j'étais pas bien, c'est que j'étais fatigué. Alors maintenant je fais la sieste, et ben c'est super. Voilà. Bon. Ouais, donc la vie saine, non mais je dis ça surtout pour les jeunes. Vous savez, quand les services secrets veulent faire dire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas dire, c'est simple. Il n'y a pas besoin de techniques compliquées, vous l'empêchez de dormir. Vous empêchez quelqu'un de dormir, au bout de 4 jours, il devient fou, cliniquement fou. C'est impossible que notre cerveau fonctionne si on ne dort pas. C'est absolument vital que vous ayez tous une nuit complète, profonde de sommeil par semaine. Au moins une. Vous ne pouvez pas vivre sans sommeil. Et moi, je connais beaucoup de gens qui sont à la limite de la dépression, qui n'en peuvent plus, qui ne sont pas bien dans leur vie, qui me disent « mais ça ne va pas ». Alors on discute 10 minutes, en fait, ils ne dorment pas assez. Ils ne dorment pas assez. Et je vous garantis qu'il y a une bonne partie de vos problèmes soi-disant spirituels qui sont ou psychiques ou même d'apparence de dépression qui sont juste dues au fait que vous ne dormez pas assez. Alors, voilà, je ne suis pas médecin, mais je ne vais pas passer 2 heures là-dessus. Bref, on avance. Alors, bon, douche, nourriture, sport, détente, apprenez à vous détendre, hein, c'est super important. J'ai mis aussi à peu près 50 ans pour apprendre à me détendre, mais maintenant, ça y est, je lis des bandes dessinées. Ouais. Ah, une petite histoire.
Alors, si vous avez un problème de santé, il faut voir un médecin. Hein? Alors, nous, à un moment, je vous racontais hier l'histoire de Jean-Michel qui récitait Notre Père. C'était un clochard. Donc, Jean-Michel, une année, il était couvert de poux. Mais couvert. Vraiment, il y avait une épidémie de poux chez les clochards. Et Jean-Michel, il a perdu 14 kilos en 2 mois. Et il était vraiment mal, il ne dormait plus. Et c'est les poux qui l'empêchaient de vivre. Alors on a pris notre Jean-Michel, on a eu beaucoup de mal, il ne voulait pas venir. On voulait on lui a dit, bah écoute, dimanche on t'emmène. Ah, le dimanche je ne peux pas, j'ai la quête. On lui dit, écoute, on te donne les sous de la quête, on t'emmène à l'hôpital. Non, je ne peux pas. On l'a réussi, il a fallu qu'il perde ses 14 kilos. Et un jour, il est venu nous voir, Jean-Michel, s'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital, je vais mourir. On l'a emmené à l'hôpital, bravo l'hôpital. Ils l'ont lavé, ils l'ont désinfecté, ils lui ont donné un pyjama propre, ils lui ont donné triple ration de nourriture, ils l'ont mis dans une chambre. Au bout de 2 jours, Jean-Michel a quitté la chambre parce qu'il n'arrivait pas à vivre à l'hôpital. Mais il a été chez le médecin. Alors nous, n'attendons pas d'en être à ce point-là. Hein, si on a un problème qui peut être allégé, amélioré par la médecine, utilisons les médecins.
Voilà. Dernier petit point dans le bon sens, hein, on ne peut pas passer trop de temps, ne pas rester seul. Ne restez pas seul avec vos problèmes, avec vos souffrances, je crois qu'on en a déjà parlé. Je vous donne une petite maxime qui me nourrit depuis très longtemps, que j'ai entendue d'un prêtre il y a fort longtemps, je me le redis régulièrement. Écoutez bien, c'est simple. Repli sur soi égale tristesse, dégoût, cafard. Hein, repli sur soi égale tristesse, dégoût, cafard. C'est pas compliqué comme règle de vie. Repli sur soi égale tristesse, dégoût, cafard. Pour sortir du repli sur soi, ben, il faut des amis, il faut des gens de confiance. Hein. Alors ça peut être un prêtre, ça peut être un ami, ça peut être un éducateur, ça peut être un médecin, ça peut être vos parents, tout ce que vous voulez, mais faites cet effort intérieur de sortir de vous-même pour parler. On est frappé depuis 3 jours du nombre d'entre vous qui viennent nous voir, ou qui viennent voir d'autres, et puis qui nous parlent, qui racontent, qui parlent de leur solitude. Là, il y a vraiment... alors c'est pas simple, hein, je dis pas que c'est facile, mais c'est un point quand même super important. Parle de la prière des frères.
Il y a quelques semaines, on avait une jeune amie qui allait passer le bac et elle était complètement angoissée. Mais elle en pleurait, hein, elle pleurait d'angoisse à l'idée de passer son bac. Alors je lui ai dit, on va prier pour toi. Ça veut dire que le jour où tu vas passer le bac, nous, on priera pour toi. Alors ce que tu vas faire, c'est que chaque fois que tu sentiras cette angoisse monter, tu diras « Seigneur, je m'appuie sur ceux qui prient pour moi ». Et on l'a fait. Le jour du bac, tous les jours où elle a passé le bac, on a prié, prié, prié. On a fait prier. On a fait une chaîne de prières pour elle. Et elle m'a dit après, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai eu l'impression d'avoir pris un anti-anxiolytique. Non, un anxiolytique. J'ai eu l'impression d'être portée, tout allait bien. Alors, trouvez des personnes qui prient pour vous.
Alors, troisième point, la conversion. Une fois qu'on s'accroche à l'espérance, qu'on met un peu de bon sens dans notre vie, ben, il y a des moments où il faut se convertir. Alors, je voudrais commencer ce point de la conversion par un truc que je trouve vraiment super, c'est le regard de Jésus. Un petit rappel sur Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'était un fidèle de Jésus. Et puis, il y a un moment, par exemple, dans l'évangile où Jésus lui dit « Mais alors, pour vous, qui suis-je » Puis Saint-Pierre, il dit « Pour nous, tu es le Fils de Dieu. » Donc, c'était quand même du costaud, hein, fallait déjà le dire à l'époque. « Pour moi, tu es le Fils de Dieu. » Puis après, il trahit Jésus. Hein, je ne raconte pas l'histoire, il trahit trois fois Jésus. Et alors, ce qui a changé Saint-Pierre, ce qui a changé ce traître en quelqu'un qui était le premier père de l'Église, c'est le regard de Jésus. Hein, il a trahi Jésus, je ne connais pas cet homme, puis c'est le regard de Jésus qui l'a totalement transformé, il s'est devenu l'ami de Jésus. Hein, et après il est passé à « Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». Il est devenu l'ami de Jésus. Alors il faut laisser le regard de Jésus venir sur notre vie, venir sur nos épreuves, venir aussi sur nos fautes, et ce regard va nous guérir, ce regard va nous transformer. Il y en a quelques-uns parmi vous, on le sait, on a vu, qui ont ouvert des portes depuis trois jours. Ils ont osé dire des choses, ils ont osé montrer des souffrances, ils ont osé ouvrir un petit peu quelque chose de leur intérieur à Dieu. Alors il faut avoir ce courage d'ouvrir la porte et laisser le regard de Jésus nous guérir. Deuxième petit point, alors je l'illustre par la parabole du pétrolier, moi j'aime bien. Vous avez un pétrolier, il va vers New York. Bon, il est en plein Atlantique, à fond ses machines, il fonce vers New York. Les gens qui gèrent le pétrole, ils veulent économiser. Donc il y a des tout petits moteurs et un très gros bateau. Puis une fois que c'est parti, ça avance tout seul. Hein, ils ne veulent pas consommer leur pétrole. Et puis le capitaine, au milieu de l'Atlantique, il se convertit. Bon. Il rencontre Dieu, il a une illumination, il se dit, il faut que je change de cap, il faut que j'aille à Jérusalem. Bon, il n'y a pas de port à Jérusalem, mais on va faire comme si. Hein. Donc, il faut qu'il emmène son pétrolier à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit au timonier, change de cap. Donc le timonier, il pousse la barre, et puis il oriente le pétrolier pour qu'il aille à Jérusalem. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien, absolument rien. Le pétrolier, il continue vers New York, parce que c'est un machin de 300 000 tonnes, puis que le petit gouvernail, il ne change rien. Seulement le capitaine, écoutez bien ça, il est déterminé. Il a pris une décision. Il veut aller à Jérusalem. Il s'est converti. Il change de cap. Le pétrolier continue tout droit, mais lui, il a changé de cap. Puis peu à peu, comme le gouvernail il est en bonne position, peu à peu, le pétrolier, il change. Peu à peu, il tourne tout doucement. Et puis, le capitaine, il n'abandonne pas. Il dit, oui, il finira bien par tourner, je veux aller à Jérusalem. Et puis finalement, ben, le pétrolier, il est dans le bon sens. Dans notre vie, c'est ça. Il faut qu'on repère ce qui coince. Il y a des moments, il faut qu'on se convertisse. Hein, je sais pas, je fais pas la liste, mais le sexe débridé, l'alcool, la drogue, enfin que sais-je. Bon, on a besoin de se convertir. Ce qui compte, c'est la détermination. Une fois que vous avez pris votre décision, vous allez vous confesser, vous confier tout ça, puis vous gardez votre cap. C'est pas pour ça que vous serez guéri, mais le cap va vous transformer. Oui, alors on me fait remarquer que je vais un peu fort, il y a plein de petites choses à convertir dans notre vie, moins graves que l'alcool ou la drogue, hein. Mais bon, vous trouverez vous-même. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de décision, de détermination, puis peu à peu votre vie va se réorienter. Alors, un petit témoignage d'assureur. Ouais.
Alors on a un autre point, c'est la louange, se convertir par rapport à la louange. On connaît un jeune
qui est venu à Paray-le-Monial et jeune de bonne famille, très, très digne, et il était tout au fond, les bras croisés le matin, et il disait, moi, je n'applaudirai pas et je ne lèverai pas les mains, je ne veux pas être ridicule. Et puis, la louange était animée par un groupe d'Ivoiriens, et ça a été extraordinaire. Il y avait une ambiance sur le podium, mais vraiment, c'était fabuleux. Et à un moment, il y a un grand Ivoirien qui vient au micro et lui dit « Alors, on va louer le Seigneur. Quand on loue le Seigneur, on lève les mains au ciel. On ne peut pas louer le Seigneur les bras croisés. » Et notre jeune, il a regardé, tout le monde avait les bras levés au ciel et il était le seul, complètement ridicule, ses bras croisés. Et il a dit « Ben d'accord. » Et il a levé les bras. Et il nous a raconté à ce moment-là, j'ai été rempli de joie de la tête aux pieds. Voilà.
Donc concrètement, cette petite arme toute simple de la louange, vous pouvez la mettre dans votre vie tous les matins. Prenez l'habitude de commencer votre journée par un petit moment de louange. Merci Seigneur, hein, c'est pas plus long que ça. Puis vous allez voir, ça va transformer votre vie. Alors on avance un peu. Une fois qu'on s'est converti, on a mis en place les grandes choses qu'il faut changer dans notre vie. Il y a une phase souvent qui est très importante, c'est la phase. Alors, il peut y avoir des épreuves qui durent, c'est pas parce qu'on se convertit puis qu'on a du bon sens que toutes les épreuves s'effacent. Il y a des choses qui restent, c'est des choses qui sont beaucoup plus lourdes. Je pense à un décès, je pense à une maladie. Bon, il y a des choses, on peut pas les résoudre simplement parce qu'on se convertit. Alors, il y a une phase qui est essentielle dans notre vie, à la fois humaine et spirituelle, c'est l'acceptation. Et là, faut du temps. Il y a des choses, on a besoin de temps pour les accepter. On ne peut pas les gérer du jour au lendemain. Il faut accepter de prendre du temps. Alors Anne vous raconte l'histoire de l'avion.
Alors c'est pas une histoire vraie, hein. c'est une image. Imaginons que vous vous préparez à faire un magnifique voyage en Italie. Vous avez prévu Rome, vous êtes acheté la méthode Assimil et vous avez appris les mots de base en italien. Vous vous êtes acheté des livres d'histoire et de peinture et d'art et vous vous êtes fait tout un chemin dans Rome et vraiment vous êtes ravi d'aller visiter Rome. Vous montez dans l'avion et quand l'avion atterrit, vous vous rendez compte que vous êtes en Hollande. Et là, la Hollande, vous vous dites « mais mon italien ne va servir à rien ». Mes livres d'histoire, mes livres d'art ne vont me servir à rien. Seulement, eh ben, vous allez découvrir que la Hollande, c'est magnifique. Vous allez découvrir l'histoire hollandaise. Vous allez découvrir la langue. Vous allez vous promener au milieu des tulipes et vous allez découvrir les moulins à vent. Alors parfois, on s'imagine notre vie et elle ne se passe pas comme prévu. Ça ne veut pas dire qu'elle est ratée, ça veut dire que c'est un autre trésor, ça veut dire que c'est une autre aventure, mais ça veut dire aussi que c'est là qu'on vous attend, ça veut dire aussi que c'est là que tous vos dons vont pouvoir se réaliser, que tous vos dons vont pouvoir se mettre en œuvre. Et ça veut dire que c'est là que vous allez trouver le bonheur, la joie, la paix, et la sainteté.
Alors on prend l'exemple de la maladie. Accepter sa maladie, ça ne veut pas dire se résigner, c'est le contraire. Tant qu'on n'a pas accepté en profondeur qu'on est malade, il nous manque des armes pour nous battre. Parce qu'il nous manque la paix intérieure, il nous manque une certaine force. Et c'est seulement au moment où on accepte vraiment du fond du cœur que tout d'un coup, enfin, il y a des obstacles qui sautent et en fait on retrouve plus de force, on retrouve plus de pêche. Hein, donc l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on se résigne, c'est le contraire, c'est une arme pour le combat.
On avait une petite fille, Joanne, et on devait lui faire un vaccin, elle avait 4 ans. Alors je lui ai dit, il y a plusieurs manières de faire les piqûres, de vivre la piqûre. Soit tu fais ton bras très très dur et ça fait très très mal. Quand l'aiguille rentre, vraiment ça fait mal. Soit tu fermes les yeux, tu fais comme si rien n'allait t'arriver et quand l'aiguille rentre, ça te surprend et ça te fait mal. Soit tu laisses ton bras tout mou et tu regardes l'aiguille rentrer. Et si tu fais ça, c'est ce qui te fera le moins mal. Et Joanne, elle avait été incroyable. Elle avait été voir le médecin, puis elle avait tendu son bras comme ça, et elle avait regardé l'aiguille rentrer. Eh bien, je vais vous dire, le médecin, il n'a jamais été aussi doux quand il a fait une piqûre, parce qu'il a vu l'abandon. Alors l'acceptation, c'est ça. Quand on est face à la souffrance, il y a un moment où il faut se laisser aller, et il faut... je dirais un mot qui va peut-être vous choquer, il faut la savourer. C'est terrible, hein? La savourer. Il faut, si on lutte contre la souffrance, si on se durcit contre la souffrance, si on essaye de faire comme si rien ne nous arrivait, ça se passe bien plus mal. Mais si on dit, ouf, je vais me remplir, je vais me laisser aller. Je vais la savourer. Entre guillemets, hein, évidemment, ce mot est affreux. Mais je vais la savourer. Vous verrez, ce sera moins dur.
Alors, bon, c'est l'acceptation, l'abandon. Hein. Alors, ce matin, je dormais tranquillement. J'étais dans mon lit bien au chaud. Tout d'un coup, Anne allume la lumière. Il était 6h15. Elle me réveille brusquement. Et elle me dit, écoute, j'ai un truc super important à faire si ça t'embête pas. Et alors, je lui ai dit, d'accord, pardonne-lui, Seigneur, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Puis j'ai laissé se mettre debout et j'ai laissé faire ses trucs. En fait, c'était prendre des notes pour maintenant. Pourquoi je vous raconte ça? Il y a un truc qui est terrible, c'est la perfection. Hein, n'essayons pas d'être parfaits. Hein, l'idéal du couple, c'est pas la perfection, c'est la patience et la miséricorde. Hein, alors, il n'y a rien de pire dans la vie que d'essayer d'être parfait ou d'attendre que les autres soient parfaits. Je vous raconte un petit truc. Donc, c'est un autre point sur l'acceptation. Acceptons d'être imparfait. Acceptons d'être imparfait.
Puisqu'il a osé vous raconter ce que je lui ai fait, vous allez voir lui ce qu'il m'a fait. Vous allez voir. Un jour, on a fait nos courses ensemble dans un grand magasin avec un chariot. Vous connaissez ça, hein? On a rempli notre chariot. On est allé à la caisse. Alexis a très gentiment, il m'a aidé. Il a été super. Hein, il a mis les affaires sur le tapis roulant. Puis après, il a remis les affaires dans le chariot. Et je lui ai dit, je paye. Il m'a dit, d'accord, je vais à la voiture. Il est allé à la voiture. Je suis restée auprès de la caissière. J'ai fait mon chèque. Le problème, c'est que entre la caisse et la voiture, il a complètement oublié où il était. Il s'est mis à réfléchir à un problème de maths. Il a ouvert le coffre. Il a mis tous nos sacs dans la voiture, sur le coffre, à côté de lui. Il y en avait partout. Et il est parti. Moi, j'ai fait mon petit chèque, je suis sortie, j'ai vu la voiture partir. Je me suis assise et j'ai attendu. Hein. Et lui, alors il a fait 3 km quand même. Hein. Et puis à un moment, sa pensée, la bulle a explosé et il a dit, tiens, où je suis? Et il a vu des sacs de courses à côté de lui. Tiens, je suis allée faire les courses. Et puis, d'un seul coup, ça lui est tombé dessus. Mince, j'ai oublié ma femme. C'est pas marché. Eh bien, je vais vous dire, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux d'aimer quelqu'un qui n'est pas parfait. C'est tellement abominable d'aimer quelqu'un qui est parfait parce que je ne serai jamais parfaite. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est l'amour. Hein, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la tendresse. Et je peux vous dire, on ne peut pas être en colère. C'est pas de la méchanceté, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, seulement on a nos petits défauts. On a nos petits défauts.
Alors, on voit que le temps passe à toute vitesse, là. On va avancer un petit peu. Ça, c'est important. Bon, Anne dit que c'est important.
Alors, on n'est pas propriétaire de ce qu'on aime. Un jour, on a notre fille Claire qui avait 5 ans, qui faisait du vélo. On était en bas de la colline. Elle était en haut de la colline avec son grand frère en vélo. Et le grand frère, il a pris la colline à fond dans la descente. Et Claire a fait pareil. Et nous, on était en bas et on l'a vu. On lui disait « Ralentis, freine, freine !» Et elle ne traînait pas. Et elle est tombée. On a vu sa roue avant faire ça. Pouf, elle est tombée. Et quand elle s'est relevée, elle a passé sa main comme ça et nous on a vu du sang plein la figure. Oh, on s'est dit c'est affreux. Et en fait elle était juste coupée à l'intérieur de la lèvre, mais comme elle avait enlevé ses cheveux, elle s'était mis du sang partout. Alors ça nous a vraiment fait réfléchir. On a consacré tous nos enfants à Dieu. On a dit au Seigneur, toi tu les aimes plus que tout. On n'est pas propriétaire de nos enfants. On n'est pas propriétaire de ceux qu'on aime. On n'est pas responsable de ce qui leur arrive si on n'est pas fou et qu'on ne prend pas des risques. Hein. Mais tant qu'on fait tout ce qu'on peut, Dieu est propriétaire de chacun de nos enfants. Dieu est propriétaire de nos frères et de nos sœurs. Dieu est propriétaire, c'est lui qui est responsable de ce qui arrive à ma mère, à mon père, à mon frère et à ma sœur. Je dois aimer, je dois faire tout ce que je peux, mais je ne suis pas propriétaire.
Ça c'est fort, tu peux pas faire. On va vous garder jusqu'à 6 heures.
Ouais. Alors, point suivant, je suis désolé, ouais, on avance, l'amour actif. Donc on a vu le bon sens, la conversion, l'acceptation, hein, tout ce qu'on a dit. L'amour actif, hein. Il y a un moment, il faut sortir de son nombril, il faut sortir de soi-même, et puis il faut être actif dans l'amour. Hein. Ça ne suffit pas de toujours tourner en rond, il faut être actif dans l'amour. Premier fruit de l'amour, ça nous sort de nous-mêmes, puis ça nous permet de nous rendre compte de ce que vivent les autres. Donc ça relativise nos difficultés. Premier fruit. Deuxième fruit de l'amour. Ah oui, c'est Anne, ça.
Il y en a ici qui sont là parce qu'ils ont des amis, des frères, des sœurs, des papas et des mamans, des enfants qui sont dans la peine. Je voudrais vous dire un message de la part du Seigneur. Vous n'êtes pas responsable, hein, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez un devoir, vous avez une mission, vous avez une vocation. Parce que vous êtes blessé par la souffrance des autres. Là, je réponds aussi à des questions qu'on a eues. Hein. Vous êtes blessé par la souffrance des autres, la souffrance des tout-petits, la souffrance des innocents. Votre mission, c'est d'être un missionnaire d'amour. Votre mission, c'est de vous construire. Votre premier devoir, c'est d'utiliser toutes ces armes. C'est de vous faire du bien. Faites-vous du bien, du vrai bien. Choisissez des amis qui vous font du bien, qui vous font grandir. Hein? Des amis, un ami c'est quelqu'un qui vous fait grandir. C'est pas quelqu'un qui s'accroche à vous tout le temps. Donc vraiment, ça c'est votre devoir, c'est votre vocation. Je voudrais qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous ont envoyé ces petits messages en nous disant « j'ai de la peine pour telle et telle personne », repartent en se disant « ma vocation, ma vie, c'est d'être missionnaire d'amour. Ma vie, c'est d'être un soleil. Que quand ces personnes, quand je vais voir ces personnes, quand je vais voir mes parents, quand je vais voir mes frères et sœurs, quand je vais voir mes amis qui sont dans la peine, quand je vais visiter des malades, il ne faut pas que je pleure. Il ne faut pas que je tremble d'angoisse. Il faut que j'ai au fond de moi cette force de l'Esprit Saint. Il faut que j'ai au fond de moi cet amour de Dieu. Il faut que je sois un soleil. Il faut que je sois un éclat de rire. Il faut que hier on nous parlait des blagues. Il faut que je connaisse des blagues par cœur, plein de petites histoires qui fassent rire. Attention, c'est votre vocation.
Il y a un truc intéressant quand les sœurs de Mère Teresa embauchent entre guillemets une sœur, donc pour s'occuper des pauvres, des malades, des très simples dans le monde entier. Une des conditions absolues pour devenir sœur de Mère Teresa, vous savez ce que c'est? Et on peut pas. C'est, là, ils sont, comme dit l'autre, ils s'occupent de. Les sœurs de Mère Teresa s'occupent de toutes les détresses du monde. Par contre, pour y rentrer, c'est très sélectif. Et le premier critère, écoutez bien, c'est pas compliqué, c'est avoir un tempérament joyeux. On peut pas devenir sœur de Mère Teresa, sœur de la charité, si on n'a pas un tempérament joyeux. Vous voyez, comme la charité, il faut qu'elle soit construite sur l'équilibre humain. Hein, sur, voilà, enfin, j'insiste pas. Alors, tu veux qu'on parle un peu de ça?
Ah non, mais c'est obligé.
Ouais. Alors, dernier point sur l'amour actif. Hein, donc, il y a cet aspect missionnaire d'amour, il y a sortir de soi-même. Dernier point, notre boulot comme chrétien, c'est d'être témoin de l'amour et de la miséricorde. Notre premier boulot, c'est pas, enfin c'est important, mais notre premier travail, c'est pas de donner à manger. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas notre première mission. Notre première mission, c'est pas de résoudre la misère du monde. Il faut travailler dessus, il faut se laisser toucher, bien sûr. Mais notre premier moteur, notre premier but, notre premier objectif, c'est d'être témoin, c'est d'amener, c'est de laisser dans notre cœur par notre cœur parler et de témoigner de l'amour et de la bonté de Dieu, hein, d'être bienveillant, de veiller au bien de l'autre. Alors là-dessus, ouais, vas-y.
Mère Teresa, un jour on lui disait, imaginons une ville où il y a 500 000 personnes qui sont dans la détresse, qui ont besoin de vous. Seulement dans cette ville, il n'y a pas de prêtre, pas de messe, pas d'adoration. Est-ce que vous y allez ? Mère Teresa, elle dit non. Elle dit, qu'est-ce que je donnerais ? Qu'est-ce que je donnerais ?
Alors, c'est pas par manque de charité, hein, c'est très fort comme phrase. C'est parce qu'elle, elle est vide. Et que si elle n'a pas Dieu, elle ne peut rien faire. Alors, c'est sa vocation, c'est une sœur contemplative. Mais quand même, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que comme chrétien, comme catholique, notre source, c'est Dieu. Et si on ne s'appuie pas sur Dieu, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire. Mais on ne donne pas le meilleur, on ne donne pas ce pourquoi. Le plus grand don qu'on puisse faire, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Et il faut essayer d'être fidèle à ce plus grand don que Dieu nous demande de faire. Donc on nous demande d'abord d'être missionnaire de l'amour de Dieu, d'être témoin de l'amour de Dieu. Et c'est seulement si on fait ça qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout de l'amour et jusqu'au bout de l'efficacité. Parce que si vous regardez les saints, c'est aussi des gens qui vont tout au bout de l'efficacité concrète pour l'engagement humain. Parce qu'ils ont ce moteur qui fait qu'ils lâchent jamais. Ils ont ce moteur qui fait qu'ils lâchent jamais. Alors, on a essayé dans ce parcours d'intégrer pas mal de questions que vous aviez posées. On a essayé de donner des éléments de réponse. On avait prévu, là, on avait regroupé vos questions. On a prévu de répondre à 5 questions qu'on a documentées. Le problème, c'est qu'il est 4h-10. Puis on aimerait bien conclure avec vous. Donc, je crois qu'on va laisser tomber les réponses concrètes à certaines questions que vous avez posées. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on a dites. Puis ceux qui vraiment sont assoiffés, qui ont besoin de réponses précises sur certains sujets précis, on est disponible après. Vous venez nous voir. Parce que sinon, on va pas réussir à finir. Alors, on voudrait terminer en vous parlant de l'offrande. Hein ? Dernier point de notre parcours, dernier point de nos armes, l'offrande. L'offrande, on veut la décliner en deux points de vue. Premier point de vue, il y en a parmi vous qui sont touchés par la souffrance des autres, qui sont témoins de la souffrance des autres. Alors c'est ce qu'Anne a dit tout à l'heure, là votre devoir, votre manière d'offrir votre vie, c'est de vous construire, c'est d'être solide, c'est d'être des soleils, des sources, et c'est votre manière à vous d'offrir votre vie. Et si vous construisez votre vie, vous l'offrez, et comme ça vous devenez témoin d'espérance. Et puis, il y a les gens parmi vous que vous pouvez connaître, qui sont laminés par les épreuves, qui tiennent plus debout, qui n'arrivent plus, hein, qui n'arrivent plus à survivre, pour qui c'est juste trop difficile. Alors là, je voudrais quand même vous parler d'une chose que nous, on voit autour de nous, qu'on observe, c'est que peu à peu, quand on rentre dans le chemin de la foi, quand on rentre dans l'écoute de l'esprit, il y a un chemin très mystérieux qui se fait. Et peu à peu, notre souffrance peut devenir offerte. Il y a comme une union très profonde, très mystérieuse avec Jésus sur la croix. Et notre offrande, peu à peu, alors j'en témoigne avec beaucoup de délicatesse, parce que moi je ne suis pas là, mais j'observe autour de moi des gens qui vivent ça, ils arrivent peu à peu à offrir ce qui qui vivent en union avec Jésus. Et ils se rendent compte tout d'un coup, mais c'est vraiment une grâce de l'Esprit Saint, que leur souffrance n'est plus inutile. On a une amie très âgée dans la communauté, c'est une dame qui était extrêmement active, elle ne peut plus rien faire pour des raisons de santé, donc elle est sur son fauteuil, puis elle prie. Puis elle nous a dit, le changement qu'il y a eu dans ma vie, c'est le jour où je me suis rendu compte que ma souffrance n'était pas inutile. Je peux l'offrir, je peux m'associer, je peux m'unir à Jésus qui est mon ami, qui m'aime, que j'aime. Puis mon cœur, il est en train de devenir comme le sien. Parce qu'il a été blessé, il est mort sur la croix, puis moi je suis sur le même chemin. Je suis uni, j'offre. Une souffrance qui n'est pas offerte est inutile et perdue. Hein. Une souffrance qui n'est pas offerte est inutile et perdue. Alors ça c'est un chemin, j'en parle, mais il n'y a que l'Esprit Saint qui peut faire ce chemin dans votre cœur. Hein. Ce n'est pas de la théorie, ça c'est vraiment Jésus, c'est vraiment l'Esprit qui peu à peu change notre cœur. Alors dans la communauté, on a un truc qui s'appelle la Croix Glorieuse, c'est une espèce de groupe dans la communauté Emmanuel. Le boulot des gens qui sont dans la Croix Glorieuse, c'est d'offrir leur vie. C'est des souffrances, c'est des gens qui ont eu des décès, qui ont eu des graves maladies, ils offrent leur vie. Et puis nous on est très conscients que c'est la source de toutes les grâces qu'on vit. Vous êtes là à cause d'eux, c'est à cause d'eux que vous êtes là, grâce à eux. Hein, c'est grâce à eux qu'on peut parler, c'est grâce à eux qu'il y a des merveilles dans les cœurs, c'est pas grâce aux paroles, c'est grâce à tous ces gens qui dans l'amour, très mystérieusement, sous l'inspiration, sous l'impulsion de l'esprit, offrent tout ce qu'ils vivent et donnent leur vie. Je voudrais conclure avec un petit témoignage qui pour nous est extrêmement précieux, c'est un moment très fort dans notre vie. On a eu la joie de rencontrer à plusieurs reprises quelqu'un qui s'appelle Marthe Robin. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Marthe Robin, les jeunes peut-être moins. Donc c'était en deux mots une personne très donnée à Dieu, qui a donné sa vie à Dieu. On pourrait l'appeler une mystique, hein. Donc quelqu'un très très uni à Jésus et qui a été extrêmement malade. Vous trouverez des livres sur sa vie dans la librairie, hein, si vous voulez. Marthe Robin. Elle a eu un itinéraire d'union à Dieu extraordinaire et en même temps c'est quelqu'un qui a toujours énormément souffert. Elle est tombée gravement malade à 20 ans, elle est morte à 82 ans, par là, et toute sa vie elle était gravement malade. Écoutez bien ce que je vais raconter, c'est l'expérience la plus forte de ma vie. 2 ans avant sa mort, en 1980, on rentre dans sa chambre. Moi à l'époque j'étais étudiant, puis j'étais déjà très formé en théologie, mais pour moi la foi était triste. Pour moi, la foi, c'était galérer sur terre pour gagner le ciel. Hein. Et pour moi, la sainteté, c'était d'abord la tristesse et l'angoisse. Je me disais, il faut galérer, quoi. Il faut se battre, c'est dur, il faut souffrir. Puis après, au ciel, je serai heureux. Voilà, donc j'avais une vision de la foi quand même très, très négative. Pas du tout évangélique. Mais je me disais quand même, il y a autre chose. Alors je rentre dans la chambre de Marthe. Et on ne la voyait pas très bien parce qu'elle était dans l'obscurité. Bon, on se connaissait un petit peu. Et puis j'ai eu une question, j'ai posé une question folle. Et maintenant, avec ce que je sais d'elle, je me dis, mais j'étais fou. Parce que ce que j'ai appris après, je sais maintenant, c'est que quand je suis rentré dans sa chambre avec Anne, elle était à 2 ans de sa mort, elle était pratiquement à l'agonie. Elle était dans des souffrances médicales très très difficiles. Et elle, en plus, on a su après qu'elle traversait une période d'épreuves spirituelles très très lourdes. Donc quand je suis rentré dans cette chambre, j'étais en face de quelqu'un, je ne le savais pas. C'est comme si vous étiez, je sais pas, devant quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer. Elle était vraiment dans une souffrance extrême. Je ne le savais pas. Heureusement pour vous, heureusement pour moi, je ne le savais pas. Alors je rentre dans la chambre, puis je lui pose cette question. J'en tremble encore. Je lui dis, Marthe, êtes-vous heureuse? Vous imaginez. Hein, je lui dis, Marthe, êtes-vous heureuse? Je ne savais pas tout ce qu'elle vivait. Je lui dis, Marthe, êtes-vous heureuse? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Elle m'a rien répondu. Il y a eu un petit silence et elle a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire. Et j'entends encore ce rire cristallin, cette petite vieille de 80 ans. Elle a éclaté de rire et elle m'a dit, mais c'est sûr, je suis dans la joie, je suis proche de celui que j'aime. Plus on se rapproche de celui qu'on aime, plus on est dans la joie. Puis elle parlait de Jésus. Alors, je vous le livre tel que je l'ai vécu. Je suis sorti de là en me disant, la sainteté, c'est pas ce que je croyais. C'est pas ce que je croyais. Alors, je vous dis pas que tout est facile, hein. On en a longuement parlé depuis 3 jours. Je vous dis pas que toutes les épreuves peuvent se vivre dans la joie, mais je suis obligé de témoigner par Marthe que, à travers toutes les épreuves, à travers toutes les souffrances, il y a quelque chose du ciel qui peut émerger pour peu qu'on laisse notre cœur être touché par l'esprit. Me demandez pas comment ça marche, j'en sais rien. Je peux juste témoigner de ça, hein. On vous propose, pour terminer ce parcours, de prendre un moment de prière tous ensemble. Alors, on vous propose un petit truc très particulier. On aimerait qu'il n'y ait personne seul dans la salle. On voudrait que chacun mette sa main sur quelqu'un pour que chacun ait une main sur son épaule, sur son dos, sur son bras. On voudrait que personne soit seul. Donc...
Soit vous pouvez nous donner votre nom et un responsable de la communauté vous contactera. Voilà. Mais si vous sentez ce besoin d'être suivi, d'être aidé, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. Vraiment, bonne route. On vous garde dans nos cœurs, dans nos prières. On va prier pour chacun de vous. Hein. Bonne route. Bonne